Bonjour la Terre au Carré, je m'appelle Audrey et je vous appelle depuis le tribunal de Bobigny où je passe en procès ce matin avec 6 autres personnes pour avoir investi le tarmac de l'aéroport de Roissy il y a un an. Alors on était 350 personnes ce jour-là à Roissy pour dénoncer la construction d'une extension de l'aéroport, le terminal 4, qui aurait fortement augmenté nos émissions de gaz à effet de serre. Et de nombreux rapports scientifiques le disent, hein, les progrès technologiques de l'aviation ne suffiront pas et le trafic aérien doit décroître si nous voulons atteindre nos objectifs climatiques. Alors aujourd'hui, nous allons défendre face aux juges la légitimité de notre action qui visait à préserver le bien commun, à savoir une planète vivable pour nous et nos enfants.
Bonjour, François Ponsato. Je suis très choqué d'entendre de la publicité pour le compteur Linky après la belle émission de début d'après-midi, ce jour, là, il y a quelques minutes. Mais la pub pour le Linky, bah écoutez, problème quand même. Hein. Merci.
Oui, bonjour la Terre au Carré, c'est Christelle et j'appelle de Paris. Ce message s'adresse à l'auditeur qui est intervenu ce lundi 4 octobre et qui a interpellé Camille Cronier concernant la chasse, lui-même chasseur. Je souhaitais lui dire qu'en 20 ans, les accidents, alors quand je parle d'accidents, je mets des gros guillemets de chasse, ont provoqué la mort de plus de 400 personnes. À ces 400 accidents mortels, il faut ajouter les 158 d'accidents par an en moyenne déclarés à la gendarmerie, un chiffre qui ne signifie rien si l'on considère que la majorité des incidents ne sont pas déclarés et que ceux qui le sont ne font que très rarement l'objet d'une enquête. Voilà, au revoir et bonne journée à tous.
Sophie de Coulanges-sur-Lautise. Alors nous, pour lutter contre l'angoisse créée par le changement climatique et la dégradation de notre environnement, on est un petit peu passé à l'action à notre niveau. On a changé de maison. On essaye d'atteindre l'autonomie alimentaire et énergétique, ce qui est pas facile. Mais bon, ça suffit pas. De temps en temps, ça nous rattrape quand même. Donc, pour lutter contre ça, je fais de la permaculture. Ça fait toujours plaisir de manger ses légumes et puis d'aller chercher les œufs des poules. Bon courage à tous et surtout aux jeunes.
Oui, bonjour à Terre au Carré. C'est Nicolas des Hautes-Pyrénées. Ben, moi, je voulais réagir par rapport à l'émission donc sur l'anxiogénéité par rapport au climat. J'avais vraiment envie de partager, moi, un message d'espoir. Je suis un trentenaire, j'ai deux enfants en bas âge. Je veux dire, c'est à nous de nous réveiller aujourd'hui et d'éduquer nos enfants dans une manière vraiment beaucoup plus écologique. C'est eux qui vont assurer la transition. Il faut arrêter, là, je pense vraiment d'avoir des personnes anxiogènes au possible qui disent que ça y est, c'est fini. C'est sûr que si on continue dans cette direction-là, c'est dire, bah, de toute façon, c'est cuit, on peut plus rien faire. Effectivement, ça sert plus à rien de faire des enfants, ça sert même plus à rien de mettre des écologistes dans le gouvernement. Enfin, je veux dire, il n'y a plus aucun intérêt à avoir, on dit, allons tous mourir d'un coup, et puis comme ça, au moins, c'est réglé, quoi. Donc, non, positivons. Parmi ces enfants, il y aura des enfants qui vont aller sur les marches de l'Élysée, qui vont devenir des grands dirigeants et qui vont avec un œil nouveau. Merci et continuez ce que vous faites. Au revoir.
Le répondeur de la Terre au Carré, 01 56 40 45 45.
Tout le monde se souvient pendant le premier confinement de ces rayons pris d'assaut dans les supermarchés en une traînée de poudre, le spectre d'une pénurie massive avait gagné une partie de la population. Alors si finalement les choses se sont vite apaisées et que nous n'avons manqué de rien, cet épisode a suscité des interrogations quant à notre capacité réelle en matière d'autonomie alimentaire. Car si la crise sanitaire a montré la capacité de résilience du système alimentaire français, elle a aussi mis en lumière ses vulnérabilités. Alors comment garantir le contenu de nos assiettes durablement? Eh bien, c'est le dossier de la Terre au Carré cet après-midi pour commencer cette semaine avec nos invités, la sociologue Yuna Chifolo et l'économiste Frédéric Wallet. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et bienvenue. Qu'en est-il donc de notre autosuffisance alimentaire? Qu'allons-nous manger demain? On en parle dans un instant avec les questions et les messages qui arrivent sur la page de la Terre au Carré, les réseaux sociaux et l'appli France Inter où vous nous avez déjà laissé quelques notes vocales. 14h30, Camille Passauvert. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Au menu.
L'état des coraux dans le monde, c'est pas joli, je vous préviens.
Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée par Lucie Sarfati, Leonardo Kahn pour les réseaux sociaux et Jérémy Kaufmann à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré. Sur France. France Inter.
Un défilé incessant de chariots. D'habitude plutôt calme un vendredi matin, le parking de cette grande surface ne désemplit pas. Pour certains, les déclarations du président Macron ont suscité une inquiétude.
On ne sait pas comment ça va se passer, comment ça va se dérouler, si les magasins vont fermer, si on va devoir rester confinés chez nous. On est dans le flou.
Ils ont dit qu'ils vont tout bloquer, que les écoles vont être fermées, tout ça, il faut faire nos provisions.
Mes enfants vont être à la maison, donc il faut que je prévoie un petit peu plus que d'habitude.
Tout ce qui est produit, surtout sec, pâte, riz, farine, levure, lait, de l'eau au cas où, qu'on ne touchera pas pour le moment tant qu'il y a de l'eau dans les robinets.
Voilà, depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, des archives de l'INA pour parler donc d'autosuffisance alimentaire au fil des décennies. Comment mangerons-nous demain et est-ce que nous sommes en capacité d'assurer justement notre sécurité alimentaire? Dossier avec vous, Frédéric Ouellet, vous êtes économiste et chercheur à l'INRAE sur les questions justement d'autonomie alimentaire et vous êtes l'auteur de ce livre « Manger demain » qui paraît chez Tana Édition. Et Yuna Chifolo, vous êtes directrice de recherche en sociologie à l'INRAE et vous vous intéressez en particulier aux circuits courts alimentaires et à l'impact justement de ces circuits sur les producteurs et les consommateurs. Alors, vous avez publié en 2017 avec Frédéric Ouellet « Et si on mangeait local ? Ce que les circuits courts vont changer dans mon quotidien ?» Et l'année dernière, « Manger au temps du coronavirus » aux éditions Apogée. C'est pas un titre qui fait rêver, hein, « Manger au temps du coronavirus ». Mais est-ce que justement, quand même, cette crise sanitaire a joué un rôle de révélateur auprès du grand public, précisément sur ces questions de vulnérabilité alimentaire ?
Alors oui, c'est tout l'intérêt d'une crise qui donc a aussi des conséquences négatives. On le sait pour tous, hein, des drames. Mais en même temps, c'est aussi beaucoup d'opportunités. On s'est rendu compte en effet à la fois de nos faiblesses et puis d'un certain nombre aussi de solutions déjà en cours, comme les circuits courts, comme l'approvisionnement local. Ça a accéléré cette prise de conscience à la fois de nos fragilités, mais aussi de ce sur quoi on pouvait s'appuyer, c'est-à-dire le local, le proche. Ce qui est autour de nous. Et donc, c'est intéressant, cette prise de conscience qui a concerné à la fois les gens qui étaient là-dedans, donc ont été convaincus que c'était aussi une voie intéressante. Alors, certainement pas la seule, hein, mais c'est aussi beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout concernés par ces questions. Donc moins, des gens moins éduqués, moins sensibilisés à la question, qui ont pu aussi comprendre les enjeux.
Alors justement, vous qui êtes sociologue, est-ce qu'il y a eu un vrai changement dans le comportement des citoyens sur la question alimentaire? Est-ce qu'on peut déjà l'évaluer ou pas, ou c'est trop tôt?
Alors, justement, dans cette grande enquête, hein, qui était une enquête nationale, mais on a aussi cherché à comparer avec d'autres pays pour savoir si oui. On était simplement, on gardait le cas français. Donc non, c'est vraiment un mouvement dans différents pays, alors avec une polarisation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup acheté en supermarché, et donc voilà, avec des files d'attente. Et puis aussi, il y a eu toute une tendance autour du local, des produits locaux, des circuits courts. Alors, pour plusieurs raisons, pour certains, c'était pour se rassurer, parce que c'était plus sûr d'acheter localement, les produits avaient moins voyagé, étaient moins manipulés, il y avait moins de risques de contamination. Et puis c'était aussi parce qu'on avait plus de temps, et plus de temps pour faire la cuisine notamment, et du coup ça amène à s'intéresser à la qualité des produits, et donc plutôt aller chercher des produits frais auprès des producteurs. Ça a été aussi pour des questions de santé, on voulait maintenir sa santé, là aussi ça entraîne, alors pour résister au virus ou parce qu'on était inactif et qu'il s'agissait de faire attention à sa ligne, ouais, donc, pour plein de raisons différentes, et puis par solidarité.
Mais ça a été une prise de conscience dans toutes les couches de la population?
Oui, ouais. Et notamment justement la solidarité. La solidarité, donc, vis-à-vis des... Parce que les marchés de plein vent ont fermé, notamment, et donc on a les familles modestes qui ont aussi compris l'importance que ça avait pour les producteurs agricoles. Et donc, ce mouvement de solidarité, c'est en particulier des familles moins aisées, moins éduquées, enfin en tout cas qui ont été cherchées, voulues. Trouver des produits locaux aussi en soutien aux producteurs de leur territoire.
Ouais. Vous me parliez hors antenne avant de commencer l'émission de l'importance des marchés aussi, qu'on a peut-être sous-estimé, mais qui a joué un vrai rôle ensuite, hein.
Oui, les marchés de plein vent qui sont au nombre de 10 000 environ en France, hein, même si on manque de chiffres de toute façon pour savoir finalement l'importance de tout ça. Mais en tout cas, les marchés de plein vent, alors où il y a à la fois des producteurs, des revendeurs, mais enfin en tout cas ils sont importants justement pour les familles modestes, pour les retraités. Mm-hmm. Pour certains, c'est l'accès à des produits frais. Et ils font des fins de marché par exemple, et donc les fermer brutalement, c'est aussi, ça a été une forme d'injustice aussi sociale vis-à-vis de ces populations.
Frédéric Ouellet, donc Manger demain, c'est ce livre chez Tana Édition. Finalement, ce que vous nous expliquez, c'est qu'on a complètement perdu la main aujourd'hui sur ce qu'on met tous les jours dans notre assiette.
Oui, effectivement, depuis les années 60, la manière dont les Français se nourrissent a considérablement changé. À la fois sur ce qu'on met dans l'assiette en termes de produits, on consomme moins de viande, beaucoup plus, mais davantage de produits laitiers, par exemple. On a doublé la consommation de poisson.
Oui.
Donc, structurellement, la consommation alimentaire a changé, mais aussi ce qui a changé, c'est qui entre dans le jeu pour alimenter les rayons.
Oui.
Et de ce point de vue, on a une prise de pouvoir de la grande consommation qui représentait à peu près 20% des achats dans les années 60 et qui représente à peu près les deux tiers aujourd'hui.
Oui.
des achats alimentaires des Français.
Et vous dites, vous posez la question, vous y répondez même, qui détient finalement les clés de notre réfrigérateur aujourd'hui dans notre société ?
Oui, parce que on a une dépendance qui est liée à la fois au fait d'aller acheter les produits de manière préférentielle dans les supermarchés, mais aussi une dépendance par rapport aux importations. Les importations alimentaires françaises représentent aujourd'hui environ 20% de la consommation alimentaire. C'est une part qui est croissante.
Ouais. Qu'est-ce qu'on importe le plus d'ailleurs ?
Alors, on importe beaucoup de produits alimentaires pour le bétail notamment.
Ouais.
Puisque on a une dépendance de plus en plus grande vis-à-vis des importations en alimentation pour le bétail. On importe tout type de produits, hein, des produits transformés, des produits bien sûr qui ne sont pas qu'on ne peut pas produire en France.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, on n'est pas autosuffisant en fruits, en légumes, par exemple.
Alors,
en céréales non plus.
On est, pour vous donner, on va pas forcément multiplier les chiffres, mais on est par exemple sur les fruits, on est autosuffisant à hauteur de 59%.
Ouais.
Ça veut dire qu'il y a 40% des fruits qui sont consommés en France qui viennent de l'étranger.
Donc on n'est pas autosuffisant du coup.
Sur cette filière-là, pas du tout et de moins en moins. Donc on a délégué une partie de ce qu'on mettait dans les assiettes aux producteurs étrangers, notamment, mais c'est aussi lié à l'évolution des modes de consommation, c'est-à-dire que le fait de consommer des légumes d'été en hiver, il ne faut pas se leurrer, ce sont des légumes qui viennent de l'étranger. Donc la soif de variété alimentaire pour des produits qui étaient saisonnalisés il y a 40 ou 50 ans fait qu'on a augmenté la dépendance par rapport à...
Justement, en admettant que nous respections vraiment les saisons, est-ce qu'on serait capable d'accéder à une autosuffisance alimentaire alors ou pas ?
Alors, pas forcément, dans la mesure où on a également de plus en plus de produits transformés dans les assiettes. Et donc, on a des plats cuisinés, on a des produits qui ne sont pas des produits naturels, mais des produits qui ont déjà subi un certain nombre de processus de transformation et qui sont intégrés là aussi de manière croissante dans l'assiette des Français.
Ouais. On va écouter la note vocale de Charles et puis ensuite des questions des auditeurs.
Bonjour, je suis Charles, j'ai 33 ans, j'habite dans le Loir-et-Cher. Remplacer le système agro-industriel me semble très compliqué, d'autant plus qu'on est de plus en plus nombreux sur Terre. Ça devra forcément, je pense, passer par un changement d'habitude alimentaire, notamment la viande, qui prend beaucoup d'espace, beaucoup de ressources également. Pour ça, il faudrait peut-être se tourner, je sais pas, vers la technologie, la viande synthétique, les insectes, peut-être penser aussi les cultures... en hauteur ou en sous-sol, je ne sais pas.
Voilà, rien qu'avec cette intervention, on a de quoi discuter pendant quasiment le reste de l'émission. Est-ce que vous souhaitez répondre, par exemple, Yuna Chifolo, sur l'aspect viande d'abord, avant même d'aborder la question de la viande artificielle, mais sur la viande, est-ce que c'est un levier important ?
Alors oui, c'est un levier important, hein, puisque on consomme beaucoup de viande. C'est surtout qu'on a gardé finalement un régime alimentaire de quand on était encore paysan, finalement, enfin à la fois riche en protéines d'origine carnée, et donc c'est aussi évidemment, en particulier, sachant qu'il y a viande et viande, c'est-à-dire réduire la viande, oui, et surtout la viande industrielle, dont on sait, dont on connaît les impacts environnementaux, et puis les impacts aussi sociaux, parce que derrière, c'est souvent aussi des situations compliquées pour les éleveurs, et puis aussi, dont on connaît aussi les impacts du point de vue du bien-être des animaux. Donc là, par contre, la viande, avec des élevages paysans, des élevages qui contribuent justement à travers des prairies à stocker le carbone, là, oui. Donc, il ne s'agit pas de... La viande n'est pas une catégorie homogène, et on a un certain nombre nombre, et on a besoin d'élevage en France, on a besoin d'élevage pour l'agroécologie, pour justement, on a besoin de polyculture élevage pour devenir justement environnementalement beaucoup plus respectueux.
Et alors la technologie, imaginons, oui, la viande artificielle, est-ce que ce serait une réponse, comme essaient de nous le vendre certains justement industriels, aux problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui?
Alors la viande, derrière la viande artificielle, c'est surtout des intérêts financiers majeurs, hein, pour les GAFAM, enfin tous ceux qui financent justement, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de cette viande qui va transformer, remplacer certaines dépendances par d'autres. Hein, et donc, on deviendra dépendant.
C'est une industrialisation finalement de l'alimentation.
C'est une nouvelle étape vers l'industrialisation et pas du tout vers l'autonomie.
Vous allez fâcher quelques auditeurs à dire qu'on a besoin d'élevage quand même, faut le dire. Il y a Pierre de Cayenne qui nous écrit « Je ne suis pas très optimiste sur ce qu'on nous fera avaler demain à cause des problèmes climatiques environnementaux. Les fruits et légumes vont se raréfier, écrit-il. Il ne restera que la nourriture ultra transformée, comme le disait l'auditeur précédent, préparation aux insectes, biscuits et je ne sais quoi, et toujours des biscuits. » Et en parallèle de ça, Céline, par exemple, nous écrit sur Facebook, elle est maraîchère bio en Bretagne, et avec de nombreux collègues, nous nous inquiétons depuis plusieurs mois parce qu'après Covid, nos ventes de paniers sur le marché et en magasin spécialisé chutent, elle nous dit moins 30% en moyenne. Aucune explication au phénomène, mais que mangent les gens, demande Céline. Alors, vous avez une réponse?
Frédéric Vallée.
Alors, je ne regarde pas ce que les gens mettent dans leur caddie, pour la bonne raison, c'est que je fais assez peu mes courses en grande surface. Donc, je ne pourrais pas répondre de manière directe à Céline. Mais par contre, on a et c'est l'un des chapitres de l'ouvrage Manger demain, on a regardé quelles étaient les évolutions de l'assiette des Français. On s'aperçoit de plusieurs phénomènes un peu structurels. C'est d'une part, on mange de plus en plus dehors. Et donc notamment la jeune génération est friande de ce qu'on appelle le snacking, c'est-à-dire de manger tout un tas de produits qui sont déjà pré-transformés à base de sandwichs, de pizza et autres. Donc effectivement, ils ne font pas appel au panier des AMAP, par exemple. Ce qu'on constate aussi, c'est que on a une habitude croissante pour manger des produits ultra transformé dans les rayons des supermarchés, et que ça, ça accroît encore la dépendance par rapport aux industriels et par rapport à la grande transformation. Mais parallèlement à ça, on a une appétence aussi croissante pour les produits végétaux. Parmi la nouvelle génération, on a un doublement des gens qui se revendiquent végétariens, voire vegan. Donc je dirais qu'on n'a pas une tendance unitaire qui se dégage, mais on a plutôt des dissociations de comportement avec des communautés qui s'affirment et derrière lesquelles on a une philosophie et un rapport particulier à l'alimentation.
Allez, la sécurité alimentaire, dossier de la Terre au carré.
Vejo passar pela janela as estações de trem. Passo o inverno, passo o verão. Quando você vem, vejo a lua e as estrelas e vejo o sol também. Por mim passam tantas pessoas. Sem você não sou ninguém. Preciso de você pra respirar. Preciso de você pra mergulhar. No fundo de você há de haver um lugar para mim, um lugar para nós dois. Não tem tempo nem estação. Preciso de você pra respirar. Preciso de você pra mergulhar. No fundo de você há de haver um lugar para mim, um lugar para nós dois. Vejo passar pela janela as as estações de trem. Passo o inverno, passo o verão, mas você não vê.
Et c'était la voix de Domhnall Néna sur France Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Pourquoi tu ne prends rien?
Oh, j'ai pas encore assez faim.
Je te laisse manger.
Cochonnerie sans odeur et sans goût. T'as rien connu d'autre, bien sûr. Quand j'étais gosse, la nourriture, c'était de la bouffe. Là-dessus, nos magiciens de la science ont empoisonné l'eau, pollué le sol, détruit les plantes et la vie animale. Enfin, de mon temps, on trouvait de la viande n'importe où. On achetait des œufs, du vrai beurre. On trouvait de la litue fraîche à gogo.
Je sais, seul, prends du soleil vert et calme-toi.
Je l'ai fini, hier au soir. J'avais faim, comprends-tu?
Mardi, je vais essayer d'en piquer encore.
Oui, c'est ça.
Extrait du film de Richard Fleischer, sorti en 1973, dont l'action se situe en 2022 à New York. Donc Soleil Vert avec Charlton Heston, et ce sont donc les débuts de la conscience écologique visiblement dans ce film, dans un monde suffocant où il y a des pénuries d'eau et où l'alimentation, eh bien, c'est cette fameuse pilule fabriquée à partir de plancton. Le Soleil Vert, c'est pour parler évidemment de l'autonomie alimentaire cet après-midi avec nos invités Frédéric Ouellet et Yuna Chifolo. Et vos messages nombreux sur le site de l'émission. Ce que vous expliquez dans ce livre, Frédéric Vallée, aussi Manger Demain, c'est que cette chaîne qui va d'un légume, d'une viande jusqu'à notre assiette, elle se déroule sur des centaines, voire sur des milliers de kilomètres, avec un système ultra complexe, à la fois donc sur le flux régional et international.
On a calculé donc avec Isabelle Brockmann, avec qui j'ai collaboré pour l'écriture de ce livre, qu'en moyenne, entre le producteur et le consommateur, un aliment aujourd'hui consommé en France parcourait 3350 km.
Ouais.
Dans ces 3350 km, on a des choses qui viennent de proximité, mais on a beaucoup de produits qui viennent d'un peu partout sur la planète, notamment quand il s'agit de fabriquer des plats transformés. Et avec la spécialisation régionale de l'agriculture française, on a une multiplication des flux de produits à l'intérieur même sur la totalité du territoire français. Mmh. On a 30 000 camions qui parcourent la route chaque jour pour amener l'alimentation et les produits d'alimentation pour le bétail. Donc on a une croissance massive des flux. Et donc une dépendance à la fois interrégionale et internationale.
Ouais, vous citez l'exemple de la pizza, pardon, ouais. L'aliment mondial vraiment qu'on aime tous. Hein. 10 kilos de pizza par an et par personne, avec la pâte qui provient des Pays-Bas, la mozzarella de Lituanie souvent, concentré de tomates de Chine, et puis le jambon d'Allemagne. Alors qu'est-ce qui se passe quand on la reçoit, quand on l'achète en France? Qu'est-ce qu'il y a de français finalement là-dedans?
Alors, il peut y avoir alors, le Made in France, peut-être c'est l'occasion de revenir sur ce que ça veut dire Made in France. Le Made in France, c'est la dernière transformation massive qui est réalisée en France. Mais rien n'indique que le reste des opérations et que l'origine des produits soit française.
Ouais. Donc cet exemple est assez édifiant et parlant. Camille, il y a pas mal de messages. Hein.
Catherine nous écrit, il est insupportable d'entendre que faire ses courses sur un marché local est un gage de qualité alimentaire. On y trouve aussi bien des produits bourrés de pesticides que des produits passés par Rungis. Je pense, Yuna Chifolo, qu'elle réagissait, mais vous avez bien expliqué qu'il y avait du circuit court et du circuit plus long. Donc, on a, pour rebondir sur ce qu'on disait juste avant, d'autres messages par rapport à la baisse des ventes en produits locaux. Mireille, par exemple, nous écrit les achats auprès des producteurs locaux diminuent de façon critique depuis juin. Et on a également Maurice, qui lui est producteur de fromage de chèvre et plantes aromatiques bio en vente directe. Il nous écrit, nous avons bien vu sur le terrain l'engouement vers nos produits au premier confinement, puis la reculade très forte cette année malgré les nouveaux confinements, jusqu'à même avoir constaté plus de difficultés à vendre qu'avant. Le monde d'après est décevant. Donc, c'est une réalité.
Oui, c'est ce qu'on constate aussi. En effet, fort engouement. Parfois, la demande a été jusqu'à x10, avec des producteurs qui ont essayé de répondre, finalement, avec une forme de... qu'ont rendu une forme de service public, hein, finalement, pendant ce confinement, en étant toujours là, toujours très présent. Et puis, depuis... ça se casse la figure à la fois, parce qu'un certain nombre de facteurs ont disparu, hein, c'est-à-dire qu'on a moins de temps pour cuisiner, et puis aussi, c'est aussi qu'il y a beaucoup plus d'hommes d'offres, hein, et notamment on a des circuits alors soi-disant courts ou locaux qui sont apparus et qui viennent capter cette clientèle qui a pris conscience et qui a envie de produits locaux.
Et puis derrière, est-ce que c'est aussi que des gens sont retournés au supermarché tout simplement?
Alors les gens sont retournés au supermarché, mais quand même, la tendance c'est aussi de diversifier, c'est-à-dire qu'on va au supermarché pour y acheter un certain nombre de produits, mais aussi pour les produits frais, on va de plus en plus quand même, on diversifie les sources d'approvisionnement. C'est aussi le Credo qui le montre, hein, qui suit les comportements dans la durée depuis pas mal d'années, et qui montre que pour les produits frais, on va aussi vers d'autres circuits. Mais le problème, c'est que justement, on a aussi des entrepreneurs qui arrivent avec, à travers des plateformes en ligne, par exemple, de produits alors locaux, avec le local, comme a dit Frédéric, avec un local qui parfois n'est fait un produit simplement transformé en France, où la dernière étape de transformation est en France, et l'origine, la matière première, on ne sait pas bien d'où elle vient, et donc qui arrivent avec une communication beaucoup plus agressive que les producteurs qui n'ont pas les moyens pour ça, et qui vont capter justement cette clientèle. Donc attention, parce que justement cet engouement, il profite maintenant eh bien, à des nouveaux intermédiaires qui sont sur le marché et qui le font pas forcément en faveur du producteur et du consommateur qui va payer cher en plus une offre qui là, je vous rejoins sur l'autre question, qui n'est justement pas forcément de qualité.
Frédéric Ouellet.
Oui, ce que vient de dire Yona Chifolo pose la question de la répartition de la valeur au long de la filière, et on voit bien que cet engouement pour le local aujourd'hui fait apparaître dans le système d'approvisionnement en produits dits locaux de nouveaux acteurs. C'est-à-dire un certain nombre de nouveaux entrants qui n'étaient pas dans les filières alimentaires, et aussi des acteurs dominants qui sont ceux de la grande distribution qui s'intéressent désormais au local. Et donc la perte de part de la valeur de valeur ajoutée des paysans qui est manifeste maintenant depuis une quinzaine d'années, des paysans qui voulaient se rattraper sur le local, finalement avec ces évolutions des équilibres pour les produits locaux va poser de nouveaux problèmes puisque on va avoir une prise de pouvoir sur les produits locaux de la part des acteurs qui dominent déjà les filières.
Juste un mot très rapidement avant de passer à Camille Passauvert. On a combien de jours d'autonomie finalement si le système, comme on pouvait le craindre au moment du premier confinement, se grippe vraiment, on peut être autosuffisant pendant combien de temps en France aujourd'hui?
Alors les données que nous on a pu collecter disent que Paris par exemple est autonome pour 72 heures en alimentation, avec des grandes variations en fonction du type de produit, bien évidemment. Hein. Mm-hmm. On est très peu autonome sur le plan de l'alimentation animale, notamment la viande, alors qu'on a une très grande autonomie pour des produits plus végétaux. Ouais. Mais ce qu'on met en évidence dans le livre, c'est qu'on a cessé de faire des stocks. C'est-à-dire alors que pendant des centaines d'années, on a géré les stocks et on faisait
qui
des stocks
alimentaires.
Alors on, c'était surtout les autorités locales qui avaient mis en place des dispositifs de gestion des stocks. On a finalement abandonné cette logique au profit d'une logique d'interdépendance, notamment au niveau régional et international. L'Union européenne a construit son autonomie alimentaire sur des flux interpays.
On a construit notre vulnérabilité aussi là-dessus.
Et bien on construit également une forme de vulnérabilité. Et par cela, la situation européenne ou française s'oppose à la stratégie qui est mise en place par la Chine, par exemple.
Allez, on y revient dans un instant. Et puis, il y aura beaucoup de messages et de réactions des auditeurs qui nous rejoignent.
France Inter. La Terre au carré.
Et 14h32, Camille Passauvert.
Et je vous emmène plonger sous les mers. Ça part bien, non?
Ouais.
Oh, les jolis petits poissons colorés dans le corail, tout aussi colorés. Alors là, on a de la chance, hein, parce qu'on est tombé sur un bon spot. Parce que sinon, les récifs coralliens vont mal. Presque 15% d'entre eux, 15% des récifs au fond des océans sont morts. Et cela en peu de temps. La période 2009-2018, donc une petite dizaine d'années. Résultat d'une étude inédite publiée cette semaine. Étude de grande ampleur puisqu'elle a analysé des millions de données recueillies dans des sites appartenant à 73 pays. Et Serge Plane fait partie de ceux qui l'ont chapeauté. Il est directeur de recherche CNRS au laboratoire CRIOB, basé à Moréa. Eh ben, je lui ai passé un petit coup de fil au bout du monde.
Clairement, la région qui est identifiée, la corrélation qui est très forte, c'est dû au réchauffement climatique. Il faut savoir que les océans récupèrent près de 80% hein, du réchauffement climatique. Et donc, une grande partie de la chaleur qui est créée dans l'atmosphère est transférée dans les masses océaniques et dans les eaux océaniques.
Et ces bulles d'eau chaude, on dit comme ça, eh ben, le corail, il aime pas. C'est ce qu'on appelle des épisodes de blanchissement. Écoutez ce qui se passe exactement.
Eh bien, le corail, lui, se retrouve en situation de stress. C'est beaucoup trop chaud par rapport à ce qu'il peut accepter. Et donc, il y a une rupture de cette symbiose, donc cette fameuse algue qui est quelque part la source, je dirais, nutritive la plus importante pour le corail. Il y a une rupture. Le corail ne reconnaît plus cette algue comme étant un partenaire. Il l'expulse. Et donc, c'est pour ça que le corail est blanc, parce que la couleur est donnée par ces algues. Et une fois que ce blanchissement s'opère, si la température se maintient, si la durée de ce stress se maintient, on arrive à des mortalités, parce que eh bien, c'est comme si le corail était sous-alimenté quelque part.
Voilà, il se laisse mourir de faim sans vraiment s'en rendre compte. Et ces épisodes de blanchissement devraient malheureusement être de plus en plus fréquents. C'est ce que m'a expliqué une autre spécialiste CNRS du corail, Laetitia Edouin.
Le GIEC prévoit par exemple que dans certaines zones, on pourra avoir des épisodes de blanchissement annuels. Alors que pour l'instant, on avait eu un épisode en 98, après il y a eu 2010, après il y a eu 2016. C'est les trois grands épisodes qu'on avait eu, quoi. Et selon les prévisions, ben, ils pourraient devenir de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses.
Exemple en Polynésie, où elle est basée également.
Le dernier, c'était en 2019. Et en 2019, on a vraiment constaté une forte mortalité corallienne sur le récif, notamment de Moréa et de Tahiti, quoi.
80% de mortalité également sur la grande barrière de corail en Australie ces dernières années, parce que le rythme s'intensifie avec le réchauffement climatique.
Depuis les années 2008-2009, plus d'un an sur deux, on est sur des événements climatiques de surchauffe. Et donc ces anomalies de température récurrentes créent une récurrence dans ces événements de blanchissement. Et donc finalement, à aucun moment on ne laisse le récif corallien, quelque part, si je peux, entre guillemets, le dire, respirer, c'est-à-dire récupérer.
Le stress s'accumule et les récifs donc ne se régénèrent pas, sauf quelques exceptions. Oui, tout n'est pas perdu. Exemple, en Polynésie.
On arrive à avoir quand même des larves coralliennes, donc des bébés coraux, qui viennent soit d'Autriche, soit des profondeurs du récif, et qui sont capables de venir recoloniser le récif en surface, par exemple, qui a été dégradé par l'épisode de blanchissement.
Tout n'est pas dramatique non plus en Asie.
Il y a quand même des zones qui montrent des tendances qui sont surprenantes. Philippines, Indonésie, Thaïlande, toute cette zone-là est une zone où vous avez à peu près 30% des coraux de la planète. Et cette zone-là, pour le moment, ne montre pas de dégradation forte. Et on a toujours un récif corallien relativement dynamique. Donc ça montre qu'il y a des capacités pour le moment dans cette zone-là d'adaptation.
Serge Plane et les autres chercheurs veulent donc mieux étudier ces capacités d'adaptation et de résistance, parce que l'enjeu est grand, hein. Maintenir les récifs coralliens, qui ne représentent certes que 0,2% du plancher océanique, mais, faut-il le rappeler, sont indispensables.
C'est 25% des espèces des océans, c'est-à-dire que vous avez une espèce sur quatre qui vit dans les océans, qui vit dans les récifs coralliens. Donc c'est une source de biodiversité. Rappelons-nous que tout ce qui est actuellement dans les grandes inventions que l'on a, que ce soit des inventions médicales, que ce soit des inventions technologiques, par biomimétisme ou par des composés pharmacologiques et tout, proviennent de cette biodiversité. Là, on enlèverait, je dirais, d'un coup, un quart de la biodiversité des océans. Je pense que c'est quelque chose que l'on ne peut pas négliger.
Sans parler des barrières naturelles, hein, que sont ces récifs qui permettent donc de vivre sur les littoraux, mais le scénario qui se profile pour l'instant est catastrophique, hein, puisque les experts du GIEC prévoient que même avec 1,5 degré de réchauffement d'ici la fin du siècle, hein, donc la limite que les États tente de ne pas dépasser avec difficulté, vous le savez. Donc, même à 1,5 degré, 70 à 90% des récifs pourraient disparaître.
Et c'est Camille Passauvert à réécouter sur la page de La Terre au Carré.
Frédéric Vallée, Yuna Chifolo, la disparition des récifs coralliens aura des conséquences sur notre alimentation aussi? Il y en a peut-être déjà?
Alors, la question du contenu des océans est une question fondamentale. Elle est d'abord liée à l'évolution des modèles agricoles. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que l'érosion des sols, de la partie émergée des terres, va directement nourrir la possibilité de diversité d'alimentation pour la faune qui est dans les océans. Donc l'évolution du modèle agricole va déterminer la possibilité de perpétuer la biodiversité sur les zones côtières.
Donc c'est une vraie interdépendance.
Une vraie interdépendance entre les milieux, et ça c'est vraiment un point qui est souvent non abordé et qui est pourtant fondamental. Le deuxième aspect, c'est C'est le phénomène de surpêche. Au rythme actuel, et malgré le développement des fermes piscicoles industrielles, on estime que les océans seront des déserts à horizon 2050, parce qu'on a des phénomènes de surpêche massifs un peu partout sur la planète.
Et 2050, c'est vraiment demain, donc autant s'en préoccuper rapidement. On parle d'autosuffisance alimentaire dans la Terre au Carré cet après-midi.
C'est moi qui t'ai suicidé, mon amour. Je n'en valais pas la peine, tu sais. Sans moi, tu as décidé, un beau jour, décidé que tu t'en allais. Le conte avait commencé à rebours. Était-ce vertige, des veines, qui sait? Un voyage, un seul aller, où l'on court, d'où l'on ne revient jamais. Moi, j'aurais tout essayé, mon amour. C'était vraiment pas la peine, je sais. C'était foutu d'avance, mon amour. Je n'ai ni remords, ni regrets. C'est moi qui t'ai suicidé, mon amour. Moi qui t'ai ouvert les veines, je sais. Maintenant, tu es avec les anges, pour toujours. Pour toujours et à jamais. Maintenant, tu es avec les anges pour toujours et à jamais.
Sorry Angel, la version d'Alex Baupin sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Quand on est un Parisien, on ne se rend pas compte de tous les efforts qu'il a fallu pour produire les aliments qu'on trouve au marché. Et c'est vraiment quand on vient dans la nature et qu'on veut les produire soi-même qu'on se rend compte de tous les problèmes que ça représente.
Deux jardins donnent des légumes. 3 hectares de terre ont été défrichés, irrigués, labourés et préparés à la semaille. Il y a des lapins, des poules, des moutons, 10 ruches. Personne ne meurt de faim.
Nous, on a dépassé la soixantaine. La vie, c'est bien autre chose. C'est-à-dire le respect de l'environnement et des générations à venir. Et l'équilibre à travers la nature.
Aujourd'hui, la proposition des incroyables comestibles, c'est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Par le choix conscient de manger local, de manger bio, de manger solidaire avec les circuits courts, c'est tout à fait possible.
Voilà quelques archives de l'INA depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui pour parler donc de l'autosuffisance alimentaire avec nos invités Frédéric Vallée et Yuna Chifolo. Frédéric Vallée, c'est un sujet finalement qui n'est pas encore un vrai sujet de débat dans la société, même si avec encore une fois le confinement on a pu commencer à l'effleurer. Est-ce que ça va être un enjeu de la campagne pour les présidentielles à votre avis ça?
Alors c'est un sujet qui est arrivé un peu dans le débat suite à la crise Covid, hein, où on s'est rendu compte de la dépendance alimentaire par rapport à l'étranger notamment. L'épisode des farines par exemple a posé la question de notre capacité à être autosuffisant. Mais plus largement, c'est une question sur la souveraineté qui commence à émerger dans les milieux politiques et professionnels depuis quelques années. Ouais. Est-ce que ça va devenir un sujet central de la présidentielle? Il est peut-être un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, c'est vrai que dans une logique de débat politique où on pose la question de la réindustrialisation de la France, le fait de pouvoir s'interroger sur la réagriculturalisation de la France, si on pourrait dire, ça peut être intéressant. Ouais.
Parce que quand vous dites 72 heures d'autonomie, par exemple pour Paris, comme tout à l'heure, ça pose question quand même. Hein.
Oui, ça pose question. Alors, toutes les villes, tous les territoires français ne sont pas sous une telle pression, bien évidemment. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a nécessité de développer des stratégies alimentaires pour l'ensemble des territoires, notamment d'avoir une logique qui anticipe les aléas et les risques de crise. Parce que avec l'évolution du changement climatique, ce dont on va avoir une plus grande fréquence des crises et donc des risques de manque d'alimentation, bien évidemment.
Nathalie sur Facebook vient mettre en avant le problème du gaspillage alimentaire également. Elle dit que c'est extrêmement important. On rappelle les chiffres, c'est 10 millions de tonnes de nourriture gaspillées chaque année. Rien qu'en France, ça fait à peu près 30 kilos par an et par habitant. L'autosuffisance alimentaire passe aussi par la réduction de ces excès. Y a-t-il des pistes que vous avez regardées, nous demande Nathalie Yuna Chifolo.
Ah oui, le gaspillage alimentaire, c'est justement la fin du cycle agro-industriel. C'est-à-dire, on produit beaucoup, on consomme beaucoup, et puis finalement, on jette beaucoup. Alors, il y a une première piste qui est finalement de donner tout ce qui est normalement part au gaspillage alimentaire aux populations défavorisées. Alors, c'est certainement pas celle qu'on soutient, hein, parce que justement, les pauvres ne sont pas la poubelle.
Mais surtout, ce gaspillage alimentaire, faut le préciser, il se fait majoritairement à la maison, donc de toute façon...
Alors oui, enfin il se fait aussi dans la grande distribution, parce que la grande distribution a pas mal de
oui, mais en proportion c'est domestique en premier d'après les chiffres.
Oui, mais après en fait on va retrouver alors les invendus qui vont aller au gaspillage, et donc là enfin il y avait la piste aide alimentaire qui est pas forcément la bonne, et puis en effet à la maison il y a aussi beaucoup de produits qui sont jetés. Alors pourquoi aussi? Parce que c'est là qu'on voit que c'est aussi parce qu'ils se conservent pas forcément bien, et parce que derrière c'est une agriculture industrielle avec des produits qui sont passés en chambre froide et tout, qui finalement se conservent pas bien à la maison, et donc ou des pains qui rassissent très vite, parce que là pareil on est sur des pains avec des fabrications industrielles derrière. Donc le gaspillage il témoigne aussi finalement de modes de transformation qui proposent une consommation directe, mais aussi parce que mais pas forcément justement de la conservation des produits, et d'où c'est aussi pour ça qu'on est fragile.
Frédéric Ouellet, alors essayons d'ouvrir un peu les horizons quand même. Qu'est-ce que vous avez, vous, identifié comme système qui nous permettrait précisément d'accéder à une alimentation durable dans notre pays?
Alors, tout au long de la chaîne, en fait, il y a une évolution des comportements à mettre en place. Hein. Au niveau des pratiques agricoles, les pratiques d'agroécologie sont plus durables, au sens où elles travaillent avec moins d'intrants chimiques, notamment, une moindre mécanisation aussi des productions. Au niveau des comportements alimentaire également, on peut avoir des évolutions des régimes alimentaires qui soient plus qualitatifs, plus végétaux, moins carnés, et donc on a un certain nombre d'évolutions d'un bout à l'autre de la chaîne qui peuvent être favorables à un système alimentaire plus performant. On évoquait à l'instant la gestion des déchets, et là aussi on voit qu'on a un certain nombre de mesures qui sont mises en place, par exemple dans la restauration collective, au niveau des cantines, avec des stratégies de gestion des stocks qui sont aujourd'hui beaucoup plus attentives au fait de moins jeter les produits qui sont achetés.
Par rapport aussi à un levier peut-être sur l'industrie en elle-même, Marcel nous écrit, tant que les lobbies pousseront via leurs pubs faramineuses à consommer des nuggets ou autres cochonneries ultra transformées, la consommation de produits sains restera à la marge par rapport à ce qui serait nécessaire. Et Cécile ajoute sur l'application France Inter, est-il possible que les gens se tournent durablement vers une alimentation responsable et équitable quand on vit dans une société où on nous fait croire que 1 euro pour 1 kilo de tomates, c'est le vrai prix des bonnes choses? Elle cite une pub d'un distributeur connu, Yuna Chifolo.
C'est clair qu'on a perdu la notion, enfin, du prix juste, en fait, hein, et parce que on oublie que d'un côté, en effet, on a des agriculteurs, y compris qui sont surendettés, qui sont pas rémunérés pour leur travail, où le salaire finalement, ça vient plutôt des subventions de l'Europe que de la rémunération du travail. Donc ça, personne ne le sait vraiment, puisque on a plus la main sur la création de valeur, sur le partage de la valeur, et finalement à qui profite l'argent qu'on dépense. Quand on achète, y compris enfin, en supermarché ou y compris dans un circuit local qui n'est pas forcément justement toujours très transparent. Donc c'est ça l'important, c'est de savoir à qui profite notre argent. Et donc on est en effet sur des situations où les agriculteurs, hein, donc finalement il y a beaucoup de 22% des agriculteurs vivent en dessous du seuil de pauvreté. On est dans des situations vraiment très compliqué au niveau de l'agriculture.
Avec un problème de renouvellement donc des générations d'agriculteurs, effectivement. Allez, on écoute la note vocale de Hugues et vous la commentez juste après.
Effectivement, faut manger local. Mais attention, le local ne veut pas dire que du bon. Il y a du local vraiment pas très bon. Donc, il faut vraiment changer notre système de production, même si on produit un peu moins, sachant que tout de suite, nous abordons un sujet tabou, qu'est le nombre de bouches à nourrir. Et là, il y a un vrai sujet qu'il va falloir oser ouvrir. Et bien entendu, nous savons qu'il y a un gros travail également à faire au niveau du gaspillage. Bon courage, belle émission.
Alors, bon courage pour la réponse également, Frédéric Wallet, sur la question de la démographie, et qui est une question qui revient tel un serpent de mer. Est-ce qu'on peut y répondre en quelques mots?
Là, on ouvre un débat qui est assez problématique, qui dépasse assez largement la question alimentaire. Mais c'est vrai que aujourd'hui, un des discours qu'on entend du système agro-industriel dominant, c'est de toute façon on est très nombreux, on sera de plus en plus nombreux.
Donc il faut de l'industrie.
Et donc il faut de l'industrie pour pouvoir nourrir cette population avec des grands volumes. Nous, ce qu'on met en évidence, c'est d'une part que ce système, il n'est pas efficient au sens où aujourd'hui on a 8 millions de Français qui sont dépendants de l'aide alimentaire et qui sont mal nourris, et qu'à l'échelle internationale, on voit bien qu'on a des épisodes de famine qui commencent à se démultiplier, et donc le système tel qu'il est présenté aujourd'hui, de toute façon, il n'est pas efficient. Donc il y a nécessité de le réformer en profondeur et pas simplement par des mesures cosmétiques, et ça passe par une évolution des pratiques et des régimes alimentaires.
Donc c'est une façon de nous dire que c'est pas la démographie le problème central. Yuna Chifolo.
Non, c'est ça, c'est le problème de répartition, c'est-à-dire qu'en effet d'un côté on jette et de l'autre côté on souffre de la faim. Donc c'est forcément les flux à réorganiser.
Allez, on se retrouve dans un instant. D'autres messages pour terminer ce dossier.
C'est du sentiment. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout. Sous mes pieds, le ciel revient. La poudre d'or.
moitié, on compte à demi, demi. Pile sur un des bas-côtés comme des origami. Le bras tendu paraît cassé, tout nez, pied et clié. Ces enfants bizarres, crachés dehors comme par hasard, cachant l'effort dans le griffoir. Et une creepy song en étendard qui fait.
Et c'est Christine and the Queen sur France Inter.
France Inter, la terre au carré.
Acheter des produits frais et locaux directement au producteur, la démarche a séduit ce client depuis plusieurs années. Et s'il vient s'approvisionner ici, dans cette ferme, c'est pour une raison toute simple, la qualité de la volaille qu'il y achète.
Sa qualité, c'est qu'ils sont déjà élevés en plein air, ils sont transformés dans la ferme, et puis voilà quoi.
Si le site favorise l'accès aux circuits courts pour les consommateurs, il offre aussi aux producteurs des volumes de vente plus importants.
Beaucoup avaient initié un petit peu les circuits courts pour pouvoir avoir un complément de revenu. Et pour certains, finalement, ça va être un revenu supplémentaire, mais qui va s'accroître parce qu'il y a des demandes des consommateurs, mais aussi des collectivités ou des restaurations collectives.
Aujourd'hui, le site manger17.fr regroupe plus de 200 producteurs de Charente-Maritime et propose plus de 1500 produits différents.
Reportage du 19-20 de France 3 Nouvelle-Aquitaine avec la voix à la fin du reportage de Françoise de Rofignac, la vice-présidente du conseil départemental de Charente-Maritime. Est-ce que les circuits courts, Yuna Chiflo, c'est vraiment une réponse pour combattre le modèle hyper spécialisé et industriel qu'on a décrit là pendant l'émission ?
Alors c'est pas la seule réponse, mais en tout cas c'en est une. Clairement, c'est un levier de changement. On voit et c'est le cas des producteurs qui commencent un tout petit peu parce que pour plus simplement diversifier leurs débouchés. Et puis, ils voient l'intérêt. C'est aussi de la reconnaissance. C'est aussi reconnaître justement la qualité de la qualité. On en a le témoignage en parle. Donc, ça l'encourage à travailler mieux. Et donc, voilà, c'est la vente directe, ça fait aussi, ça contribue à la transition agroécologique. Ouais. Ça fait qu'ils travaillent mieux. Il y aura des meilleures pratiques agricoles. Et donc, lui, c'est une trésorerie régulière. Il a toujours de l'argent qui rentre. Et donc, voilà. Donc, tout c'est vraiment une trajectoire vertueuse et qui fait que alors évidemment en achetant le plus direct possible au producteur ou quand il y a un intermédiaire, en regardant bien qui est l'intermédiaire et finalement qu'est-ce qui va, que va toucher le producteur, ça c'est très important.
Sur Instagram, on vous pose cette question. Comment mangerons-nous demain? Comment mangerons-nous demain? Pauline nous répond légumes, Cécile, moins. Thierry, à fond sur le végétal, plus respectueux de l'environnement et de notre corps et de notre santé. Et Florent, lui, nous écrit, commençons par ce qu'on disait, hein, réorganiser en circuit court la production, ça fera aussi autant de CO2 en moins et de calme, silence et sécurité en plus sur les routes. Frédéric Wallet, moi je voudrais savoir, pas comment mangerons-nous demain, mais que mangerons-nous demain? On s'est posé la question tout à l'heure, qu'est-ce que vous dites, vous?
Alors, que mangerons-nous demain? On a des solutions qui se mettent en place et qui aujourd'hui interrogent la possibilité de leur passage à l'échelle industrielle. La viande in vitro, par exemple, qui Yuna l'évoquait tout à l'heure, qui mobilise énormément de financement des grands industriels. Aujourd'hui, techniquement, on sait faire dans un labo, on ne sait absolument pas faire à une échelle industrielle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les fausses solutions, d'autant que ce sont des modèles de production qui sont extrêmement dépendants des énergies fossiles. Donc finalement, on ne règle que très peu le problème. En ce qui concerne l'alimentation qui serait basée sur les insectes, par exemple, on se rend bien compte qu'on a des freins qui sont notamment des freins psychologiques, des freins sociaux, à ce que ça devienne notre alimentation de base. Par contre, ça peut être une des solutions pour nourrir le bétail, par exemple, ou nourrir les poissons. Donc, on a aussi le développement des produits fermentés qui peuvent
peuvent venir modifier un peu les assiettes. L'ensemble des études montrent la nécessité de réduire la part des protéines animales pour pouvoir arriver à une alimentation plus durable et donc une végétalisation des assiettes et de la viande de qualité.
Mais est-ce que notre assiette va littéralement changer, Yonah Chifolo, en quelques mots très rapidement? Ça va beaucoup évoluer ou pas dans les années à venir?
Ça va dépendre aussi de ce qu'on a envie de faire, et donc c'est pour ça qu'il faut discuter avec les enfants, et les enfants en tout cas qui ont une conscience écologique aussi croissante, hein, on le voit chez les jeunes, très certainement on va vers une évolution.
Merci beaucoup à tous les deux. Frédéric Wallet, je renvoie sur ce livre Manger demain, c'est aux éditions Tana. On a mis toute la biblio de vos ouvrages sur le site de la Terre au Carré pour tous nos auditeurs qui souhaitent aller plus loin. Merci beaucoup d'être venus.